Mais avant ça, il faut quand même que je vous confesse quelque chose. Une fois, j'ai cherché ma carte bancaire partout. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais. Et en plus, vous savez, c'est un moment particulier de l'année, c'est l'automne. Vous savez, on ne sait jamais quelle veste prendre. Mais du coup, moi, je pensais vraiment l'avoir perdue. Et du coup, au bout de quelques jours, je me résigne quand même à déclarer à la banque, j'ai perdu ma carte bancaire. Et là, devinez quoi? Bah oui, je prends une veste que j'avais pas pris depuis quelque temps. Et elle était là. Ce qui était perdu est retrouvé. Mais bon, sur le moment, je me suis dit, oh Seigneur, pourquoi? Et c'est vrai que parfois, dans notre quotidien, on a tendance à perdre des choses. Et parfois, on peut perdre des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. On va peut-être pas toujours le déclarer à haute voix. Et parfois, on va même pas juste déclarer qu'on l'a perdu. Parfois, on va dire c'est mort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire dans une situation, là, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Il y a même des bruits de jetez pas la vaisselle. Et ça fait mal au cœur d'en arriver là, de dire là, c'est mort. Et parfois, ça peut arriver dans des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Ça peut être dans une relation. Parfois, ça peut être dans notre couple. Parfois, ça peut être un enfant qui prend des décisions catastrophique, à répétition, on se dit mais vers où il va? Parfois c'est une personne qui nous tient vraiment à cœur et on la voit qui s'éloigne au fur et à mesure de Dieu et on la voit finalement vivre comme si elle n'avait jamais entendu parler de Dieu. Parfois ça se manifeste peut-être de manière plus insidieuse dans notre vie perso ou de prière. On prie de moins en moins, on lit de moins en moins la Bible. Et finalement, même notre désir d'avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est un peu comme si ça s'estompait comme ça. Et peut-être au bout de quelques semaines, quelques mois, on se dit, mais en fait, c'est mort à l'intérieur de moi. J'ai plus cette envie. Peut-être parfois, c'est vous avez reçu un appel assez direct de Dieu qui vous dit, je t'appelle à faire un ministère pour moi. Ça peut être plein de ministères. Ça peut être de prendre soin des enfants. Ça peut être le fait d'accueillir. Ça peut être le fait de prendre soin des locaux. Ça peut être un ministère de la parole. Et finalement, ben, vous essayez un moment et vous avez pourtant reçu un appel très clair de Dieu. Mais un moment, vous dites, non, c'est trop dur, c'est mort. Peut-être vous avez lutté contre un péché pendant des semaines, des mois et des années. Et par moment, vous avez vécu des victoires, mais là, peut-être ça fait des semaines et des mois que vous êtes dans un. Vous prenez des chaos tous les jours dans cette lutte contre le péché. Et peut-être là aussi, vous avez dit, en fait, ce péché est plus fort que moi. C'est mort. Parfois, c'est devenu tellement impactant, ce péché et cette lutte que vous avez abandonnée, que vous avez même commencé à cohabiter avec ce péché. Peut-être même que vous avez commencé à justifier ce péché en disant, en fait, c'est normal que je vive avec ça. J'ai vécu tellement de difficultés. Peut-être même vous avez abandonné votre vie chrétienne, peut-être votre vie d'église. Peut-être certains d'entre nous luttent avec des pensées noires, sombres, des pensées de mort et de destruction. Vous avez la sensation de voguer parfois vers la fin de votre vie. Peut-être vous êtes arrivé ce matin et vous vous dites, j'ai essayé, ça changera plus. C'est mort. Il n'y a plus d'espoir. C'est là où justement c'est bon d'ouvrir la Bible. Par moments, on arrive à ce temps où on dit effectivement, humainement, il n'y a plus d'espoir. C'est vrai. Et c'est là que c'est bon de voir qu'il y a des hommes et des femmes avant nous qui ont vécu ces mêmes pensées, ces mêmes situations, ces mêmes combats dans leur cœur. Et elles aussi, elles ont eu des hauts et des bas. Mais ce qui les a tenues dans leur faiblesse et parfois dans leur chute tragique, qui ont des conséquences terribles pour leur famille, parfois des morts, des meurtres, c'est des choses qu'on retrouve dans la Bible. Mais qu'est-ce qui les a tenues? C'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Dieu est là même quand tu es au fond du gouffre. Et là, dans ces quelques lignes qu'on va lire dans le livre d'Ézéchiel, c'est là où se trouvent les familles, les hommes et les femmes de ce peuple qu'on appelle Israël. Et ce peuple ne va pas dire, ah, on est tous malades. Oui, effectivement, on est tous malades du péché. Chacun d'entre nous, hein, si tu ne le savais pas encore, tu le sais maintenant. On est tous malades du péché. Et ils n'en sont même plus là. Ils ne disent pas, oh, on traverse un temps difficile. Non. Le peuple, il dit ça. Nos eaux sont desséchées. Complètement desséchées. Notre espérance est détruite et on est perdu. Et c'est fini. Mais Dieu leur répond. Et il leur répond quoi? Non, ce n'est pas fini. C'est moi ton seul espoir. Et ce matin, peut-être quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu, c'est son seul espoir ce matin. Parfois, Dieu permet que nous soyons au bout de nos forces, au bout de nos tentatives, au bout de nos luttes, pour qu'on comprenne enfin que c'est Dieu qui est notre seul et unique espoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois on traverse des déserts. Parfois, c'est une des raisons pour lesquelles on traverse des souffrances qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a besoin de comprendre par l'expérience qu'on a besoin de Dieu parce que c'est notre seul espoir. Et maintenant, imaginez tout un peuple, des hommes, des femmes, des enfants, ils ont tout perdu, ils ont perdu leur pays, ils ont perdu leur maison, leur jardin, ils ont perdu leur roi, ils ont perdu le lieu où ils seraient retrouvés pour adorer Dieu, comme si nous, ici, on avait perdu ce lieu. Ils ont même perdu leur espérance. Et au lieu de ça, on les emmène dans un pays lointain où on parle une langue différente, on a d'autres pratiques dans le quotidien, on n'adore pas Dieu, on adore des idoles. Et lorsqu'ils regardent leur avenir et qu'ils essayent de trouver un avenir pour leurs enfants, ils se rendent compte qu'il n'y en a pas et que cet avenir il ressemble à un cimetière avec des eaux desséchées. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu il conduit un homme qui s'appelle Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Et Ézéchiel proclame alors quelque chose de puissant, une vérité puissante qui doit nous rejoindre ici et maintenant. Aucune situation n'est trop désespérée pour Dieu. Et s'il y a un truc à retenir, c'est que ta situation n'est pas désespérée devant Dieu. Et c'est vrai que là où l'homme il voit la décomposition, la mort, des ossements, ben on va voir que Dieu il prépare un recommencement. Dieu redonne la vie. Et Dieu peut faire revivre ce qui est mort. Rien n'est perdu entre les mains de Dieu. Dieu agit même lorsqu'on a tout gâché. Dieu veut changer ton cœur avant de changer ta situation. Dieu peut faire revivre ce qui est mort dans ta vie. Et Dieu ne te relève pas seulement pour toi, pour que tu sois un peu plus confortable. C'est ça qu'on va voir ensemble et on va lire ces passages. Et on va d'abord commencer par Dieu agit même lorsqu'on a tout gâché. Ézéchiel 36, versets 22 à 25. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviendrai, communauté d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur, l'Éternel. Quant à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Dieu dit quelque chose de surprenant. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis. C'est surprenant, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ces hommes et ces femmes, ils n'ont aucun argument, ils n'ont aucun mérite et ils n'ont aucune réussite à présenter à Dieu en disant « Mais tu nous dois cela !» Et je t'assure que chacun d'entre nous, c'est pareil ce matin. On ne peut pas venir en disant « Mais tu me dois cela !» Et pourtant, moi y compris, il y a des moments où je l'ai dit « Seigneur, mais pourquoi tu me laisses comme ça? Je te sers, je vis pour toi, je donne tout ce que je peux. Pourquoi ?» Mais Dieu, il va dire qu'il agit pas parce que toi, tu as fait ce qu'il faut, Dieu agit par sa propre fidélité parce qu'il t'aime et qu'il est fidèle à la parole qu'il t'a donnée, que tu es son enfant. Il t'aime. Et Dieu a choisi ce peuple et il garantit à ce peuple qu'il restera toujours quelque chose dans ce peuple. Des personnes qui l'adoreront et qui vont même bénir les autres nations. C'est le projet de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà offert un vélo à votre enfant ou si vous vous apprêtez peut-être à le faire, mais imaginez, vous achetez un vélo, le plus beau vélo qu'il y avait à Decathlon, avec les vitesses qui changent tout seul, la couleur que l'enfant voulait, et vous l'offrez à l'enfant pour Noël, et pendant des années, le papa ou la maman va l'entretenir, il va le réparer, il va graisser, huiler, nettoyer, le vélo il est toujours nickel, quoi. Ça tourne tout seul. Et un jour, l'enfant décide de laisser ce vélo dehors, sous la pluie, de laisser la boue dessus, mais pas juste une journée, pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Qu'est-ce qui se passe avec ce vélo? Il va s'abîmer, il va rouiller, les pneus vont sans doute crever, le fait de les laisser comme ça, ça va rouiller, ça va s'abîmer, la chaîne, quand tu vas essayer d'appuyer dessus, elle va pas tourner. Le vélo, il est mort. Pourtant, cet enfant, il n'a pas pris une masse pour taper dessus, il ne l'a pas jeté d'une falaise. L'enfant, il a détruit son vélo, comment? En étant passif, en étant désobéissant à chaque fois que le parent il disait « Mais tiens, ton vélo, il faut que tu le mettes dans le garage. » Et l'enfant, il fait « Non, t'inquiète. » Vous connaissez cette phrase? Finalement, il ne se souvient plus de toutes ces joies qu'il avait lorsque son papa lui a donné le vélo pour la première fois, le jour de Noël. Vous savez, même s'il y avait de la neige, il était parti pour faire du vélo dans la cour, vous voyez. Puis le père regarde ce vélo et devinez qu'est-ce qu'il fait. Il le répare, oui. C'est un bon papa quand même, hein. Et ce papa, il prend ce vélo et puis il le répare, il le restaure, il le huile. Peut-être qu'il y a quand même des dégâts, vous savez, quand la rouille, elle a vraiment attaqué, ça laisse des traces. Mais le père décide de le restaurer. Pourquoi? Est-ce que le vélo le mérite? Est-ce que l'enfant le mérite? Est-ce que l'enfant le mérite? Hein? J'entends des oui et des non là. Non, l'enfant ne le mérite pas non plus. Et pourquoi ce papa le fait? Parce qu'il aime son enfant. Et il t'aime aussi. Et ce père ne tient pas compte de la situation actuelle, mais il sait que il peut redonner vie à ce vélo. Il tient pas compte, il comprend que cet enfant il peut commettre des erreurs. Il peut même entêter, cet enfant peut même s'entêter dans cette erreur où tous les jours il voyait ce vélo sous la pluie. En Seine-et-Marne non plus, hein. Et que finalement ça aurait des conséquences terribles. Mais il est toujours temps de se repentir, de rentrer ce vélo dans le garage, c'est de demander à Dieu pardon, de changer de direction et de mettre en pratique la parole de Dieu. Pas seulement des bouts des lèvres, vous savez ça, c'est facile. Mais quand il y a un vrai changement au fond de nos cœurs qui nous dit « Maintenant, je ne veux plus faire ce qui détruit, je veux faire ce qui honore Dieu. » Pourquoi ce peuple il s'est retrouvé dans ce pays perdu au milieu de nulle part? Parce qu'ils ont déshonoré Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut honorer Dieu. Et c'est un choix au quotidien, et il y aura des hauts et des bas. Peut-être tu oublieras ton vélo de temps en temps sur la terrasse. Mais ne laisse pas le vélo des semaines et des jours sur cette terrasse. Ne laisse pas le péché te ronger, te donner l'impression que c'est une situation normale. Confie ton vélo, confie ta vie à Dieu. Et parfois, finalement, il y a des choses qui nous sont précieuses, comme une relation, parfois un mariage, parfois notre vie de couple, parfois notre vie spirituelle, peut-être notre témoignage chrétien, peut-être notre vie d'église, peut-être un ministère qu'on a laissé là sur cette terrasse et qui est en train de prendre la rouille. Nous l'avons négligé, nous l'avons laissé se délabrer. Et ce matin, j'ai envie de te dire, pourtant Dieu n'abandonne pas son projet avec toi. Et ce matin, c'est l'occasion de prendre position pour Dieu, pour l'honorer. Même dans ces situations où il n'y a rien qui reste pour l'honorer. Mais Dieu te dit que c'est possible. Pourquoi ils ont déshonoré Dieu? C'est parce qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. Et je pense que ça peut arriver à chacun d'entre nous. On commence à pas. Effectivement, Dieu, c'est un père aimant. On a même un chant qui dit qu'elle a mis fidèle et tendre. Oui. Mais Dieu, c'est aussi notre créateur. C'est lui qui règne sur tout l'univers. Et on devrait avoir une sainte crainte de Dieu. Est-ce que nous avons cette sainte crainte de Dieu quand nous nous adressons à lui, lorsque nous prions, aussi quand nous faisons les petits gestes du quotidien? Est-ce qu'on se pose cette question-là? Est-ce que j'honore Dieu? Dieu, il a placé son honneur en toi. Tu le représentes ici. Tu es son ambassadeur. Quand tu parles pour Dieu, pour ce monde qui a tant besoin d'une parole d'espoir et d'amour. Vous savez, il y a un verset qui me parle beaucoup personnellement et qui est un peu un leitmotiv pour moi. Et c'est dans Deutéronome, au chapitre 28, versets 47 et 48, qui nous dit cela. C'est aussi des recommandations qui sont données au peuple d'Israël, parce que tous ceux qui leur arrivaient là, Dieu les a prévenus de génération en génération, et ils ont fait à chaque fois, « Non, t'inquiète, c'est bon, pas de problème. » Et finalement, ce qui devait arriver, ce que Dieu a annoncé, arrive. Il ne reste qu'une minorité qui sont étalées dans plein de pays, qui n'ont plus Dieu, qui ne l'adorent plus. Et pourtant, il était dit cela, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel ton Dieu avec joie, et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Dieu nous donne l'occasion, aujourd'hui, dans un pays en paix, de pouvoir nous réunir librement, de pouvoir l'adorer librement, de pouvoir parler librement de lui. Mes amis, je nous invite vraiment à en profiter. Si nous ne savons pas le vivre aujourd'hui, Dieu nous demandera peut-être de le vivre dans la difficulté, les souffrances, dans la persécution. C'est un choix que nous pouvons faire ce matin. Alors peut-être certains sont venus ce matin en disant « Mais en fait, moi j'ai trop échoué, j'ai trop péché, j'ai trop gâché tout ce que Dieu m'a donné. » Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que ta faiblesse n'est pas plus grande que sa grâce. La grâce de Dieu est plus grande. Ton péché n'est pas plus grand que la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et Dieu va intervenir, manifester sa gloire dans ta vie, te restaurer, te renouveler. Et c'est possible ce matin. Et la plus grande preuve qu'il en est, c'est la croix. Personne d'entre nous n'est digne d'être sauvé par la souffrance, la torture et la mort que Jésus a vécue. Pourtant, Jésus, il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour notre Église, il est venu pour Varennes, il est venu pour le sud de la Seine-et-Marne. Et l'Évangile, elle commence par cette bonne nouvelle. Dieu agit parce que Dieu est bon et aucunement parce que nous, on mériterait quelque chose. Mais on peut se dire, voilà, Seigneur, tu es bon, tu vas changer les circonstances et je vais être dans le confort. On est comme ça, moi le premier. Mais Dieu, en fait, il nous dit, je veux changer ton cœur avant de changer les circonstances, ta circonstance. Ézéchiel, toujours au chapitre 36, versets 25 et 27, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Nous voudrions souvent que Dieu règle tous nos problèmes, qu'il change les situations. Et oui, Dieu peut le faire, et je crois que Dieu le fait tellement souvent, et parfois on ne le remarque même pas. Mais comprenons bien que Dieu, il est venu tout d'abord régler ce qui produit le problème. Et ce qui produit le problème dans ta vie, c'est le péché, c'est ton cœur. Je ne sais pas si ça se fait un peu moins, mais les films de pirates, vous avez vu ça récemment? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des batailles et qu'il y a un trou dans la coque? Ils prennent des seaux et ils écopent. Ils sortent l'eau du bateau, mais je ne sais pas si vous avez vu le Titanic récemment, mais en fait, tu as beau écoper, s'il y a des torrents d'eau qui rentrent dans le bateau il va couler. Donc, en fait, tu as beau écoper, et peut-être tu écopes depuis des mois et des années dans ta vie, tu écopes des sauts et des sauts et des sauts pour essayer de rester juste à flot. Mais en fait, ça suffira jamais. Le bateau va couler. Le bateau de ta vie va couler. Si la coque n'est pas colmatée. Et c'est ça dont parle Dieu dans ce passage. Le problème d'Israël, c'est pas une ville qui s'appelle Babylone. Ton problème, c'est pas peut-être le mot que tu mets dessus. Ton problème, c'est ton cœur. Mon problème, c'est mon cœur à moi. Ton problème, c'est pas une situation, c'est pas les gens qui sont autour de toi, c'est pas la conjoncture internationale. Ton problème, c'est ton cœur. Et Dieu, il dit justement, je te donnerai un cœur nouveau. Et vous savez, avec plusieurs années de pastorat, j'ai rencontré des personnes vraiment très sincères. Je ne remets pas en doute leur sincérité. Elles étaient très sincères à vouloir sortir de leurs problèmes. J'ai distribué des cartons entiers de mouchoirs à des personnes qui étaient dégoûtées des conséquences de leurs péchés dans leur vie. Dans ces mêmes familles, j'ai vu des miracles que Dieu a fait, que j'ai pas vu dans des familles chrétiennes qui étaient d'une piété que j'admire. Mais Dieu l'a fait pour ces personnes qui sont venues et qui ont dit ah, Seigneur, je suis dégoûté par mon péché, interviens dans ma vie, et Dieu est intervenu. Et pour autant, les situations ont changé, mais le cœur n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la reconnaissance qui méritait rien de Dieu. Et finalement, les mêmes difficultés sont revenues, les mêmes péchés sont revenus. Et parfois, finalement, les conséquences sont faites dans la vie de couple, la vie de famille, la vie financière. C'est devenu encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que bien souvent, et moi le premier, je prie Dieu, mais Seigneur, donne du calme dans ma barque. Donne du calme dans les symptômes de mon péché. Donne du calme dans les conséquences de mon péché. On veut que Jésus vienne écoper avec nous dans le bateau pour être un peu plus confortable, pour avoir peut-être un peu moins d'eau qui remonte. Et on peut écoper, et Jésus peut même écoper avec nous, mais est-ce qu'on laisse réellement Dieu réparer la coque de notre bateau? Vous savez, ce qui parfois est sous la ligne de flottaison, que les autres ne voient pas, mais que nous, on sait que c'est là. Ça s'appelle le cœur. Pourquoi? Parce que souvent, on est plus gêné par les conséquences de notre péché, ce que les gens vont voir, peut-être par les souffrances que ça va avoir dans notre couple, peut-être dans les souffrances qu'on va vivre, que de ce que Dieu, lui, il est triste de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on a un orgueil qui est mal placé. On refuse d'abandonner peut-être un plaisir qui est destructeur. On essaie de mettre du sparadrap dessus pour continuer à se faire souffrir. Pour profiter un tout petit peu d'un plaisir éphémère. Mais mes amis, Dieu veut guérir une maladie, et cette maladie, on l'a tous, ça s'appelle le péché. Et Dieu est venu non seulement guérir ce péché, mais il est venu pour te donner un cœur nouveau. Verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Mais pour faire cette opération, vous savez, c'est un peu comme un chirurgien. Il y a besoin de s'abandonner à Dieu et de lui faire confiance. Et Dieu veut nous purifier pour changer nos cœurs, changer nos pensées et peut-être parfois abandonner nos idoles. Vous savez, toutes les fois, on se dit, en fait, ça, c'est tellement important pour moi. Et finalement, on se rend compte que peut-être seulement après du recul que ça a pris la place de Dieu, ça a pris l'autorité de Dieu dans ma vie. Et parfois, c'est des choses qui sont pas mauvaises en soi, mais en fait qui nous détournent de Dieu et qui nous détournent de ses commandements. Et c'est vrai qu'on prie tellement facilement, Seigneur, change mon conjoint, change mon patron, change mon frère, ma sœur, les responsables de l'Église. Mais Dieu répond, je veux te changer toi d'abord. Je veux te purifier. Tu dois vivre une repentance sincère. Verset 31. Alors, Vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel. Sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. Et c'est là, il y a quelque chose d'important à comprendre. Pour devenir chrétien, en fait, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Mais ça passe aussi par le fait d'avoir une conversion qu'on appelle authentique. C'est-à-dire, ça passe par la repentance sincère. Alors, on va se repentir toute notre vie, on est d'accord, hein, ça s'appelle la sanctification. Mais parfois, on peut suivre un mouvement et dire, en fait, Jésus m'aime, je l'aime, c'est mon sauveur, je ne veux pas souffrir pour l'éternité, et on pense que c'est bon. Il y a la deuxième partie. Jésus veut aussi être ton chef. Il veut aussi que tu obéisses à ses commandements. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui est bon et qui va l'honorer. Et pour ça, à un moment, il faut être dégoûté de son péché. Pas juste des conséquences, parce que tu as plus de conflits à la... Peut-être parce que, je sais pas, tu pars, es colérique et du coup, tu as des problèmes avec les gens et tout ça. Tu te sens pas aimé, du coup, tu es triste de ça. C'est pas de la repentance. La repentance, c'est quand dans ton cœur, tu dis, en fait, ben là, j'ai besoin de Dieu dans mon cœur, parce qu'en fait, naturellement, en fait, ce que j'ai, c'est que je ne fais pas confiance à la justice de Dieu. Je veux appliquer ma propre justice. Et en fait, c'est là la vraie repentance, c'est de dire, Seigneur, tu es ma justice. Je veux que tu sois le maître de mon cœur. Je te demande pardon pour cela, et je te demande, s'il te plaît, que tu me transformes profondément. En fait. C'est-à-dire qu'on pleure plus sur les conséquences de nos péchés, on pleure sur notre cœur qui n'appartient pas à Dieu. Et c'est ça la différence entre les choses qui peuvent être superficielles dans notre vie et les moments où on appartient vraiment à Dieu. Combien de fois on était juste gêné par notre péché, alors qu'en fait, on a déshonoré Dieu. Et Dieu, justement, c'est pour ça qu'il te dit, je veux te donner un cœur nouveau, un cœur qui aime Jésus. Je veux te donner une mentalité, une façon de penser renouvelée, une vision renouvelée par mon Saint-Esprit. Et alors, à ce moment-là, on priera différemment. On insistera peut-être moins sur le fait de changer les situations, changer les entreprises, changer les autres, changer l'Église. Mais on va prier de plus en plus. Je veux, Seigneur, être changé dans mon cœur et dans mes pensées par toi. Et je veux traverser ces circonstances qui sont parfois difficiles avec Jésus comme le chef de mon bateau. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion de se positionner et de dire, Seigneur, peut-être je ne me suis pas encore donné à toi, peut-être ça fait des années que je vis une vie chrétienne, mais je veux ce matin te dire, tu as toute la possibilité de me transformer dans mes pensées, dans mon cœur. Je veux t'honorer. Vous savez, il y a des prières qu'on fait comme ça, et Dieu, il nous prend au sérieux. Et on a besoin de passer par ça pour vivre un vrai réveil spirituel. Parce que parfois, on a l'impression que on est chrétien, mais on somnole un peu, vous savez. Et Dieu, il veut que tu sois réveillé, il veut que tu sois bouillant pour lui. Est-ce qu'on est bouillant pour Jésus? Amen. Eh bien, c'est ce qui se fait qu'on est reconnaissant à Dieu. On a besoin dans notre vie quotidienne de se rappeler tout ce qu'est Dieu pour nous, tout son amour pour nous, tout ce qu'il a fait. Parce que Jésus, il n'est pas venu pour rafistoler des vieux cœurs, il n'est pas venu pour mettre du sparadrap sur ton cœur. Jésus, il est venu de faire de toi une nouvelle personne à son image, à sa ressemblance et qu'il a décidé d'amener jusqu'à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est ton projet de vie. Je ne sais pas si tu te rends compte. Dieu a de grands projets pour toi et pour moi. Jésus donne un cœur nouveau. Et Dieu, il peut faire revivre ce qui est mort. On prend Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 1 à 10. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Et il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. C'est une réponse sage. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau et les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux. Ils ont repris vie, puis se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Waouh, ça c'est notre grand Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ces eaux qui se rassemblent, cette reconstruction qui se fait. C'est quelque chose de glorieux. Cette vallée, ce n'était pas juste une vallée avec des blessés, des malades, des mourants, ni même des morts. C'était une vallée qui était remplie d'ossements secs, et même plus que secs. Et l'image, elle est terrifiante et sans espoir. Mais Dieu veut qu'Ézéchiel et Dieu veut que nous ici aussi, on comprenne quelque chose d'important. La situation, humainement, elle est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Vous savez, une fois j'ai entendu cette histoire, c'est un pasteur qui avait accueilli un pasteur stagiaire avec lui, puis ils sont allés dans un cimetière, et puis ils vont devant la plus vieille tombe qu'ils pouvaient trouver dans un cimetière. Vous savez, même le marbre, il commence à travailler, à être fissuré. Et le pasteur lui dit, mais à ton avis, est-ce que cette personne qui est enterrée ici, est-ce qu'elle peut se relever aujourd'hui? Vous vous répondriez quoi? Dieu seul sait. Merci, c'est là. Oui, vous auriez raison. Oui, pour l'homme, c'est impossible. Mais lorsque Dieu le dit, c'est possible. Et c'est là où justement il faut comprendre quelque chose, c'est que on parle souvent de la vie nouvelle, on parle de naître de nouveau. Mais en fait, quand c'est dit dans la Bible et quand c'est dit sur nous, quand c'est dit de notre vie chrétienne, c'est pas juste que tu n'allais pas trop bien et que tu étais couché et que peut-être tu avais du doliprane parce que tu avais de la fièvre. C'est toi qui étais ces os, plus que sec. C'est ça la mort spirituelle. Et Dieu a fait ce miracle de te donner la vie, de te reconstruire intégralement. C'est ça que Dieu a accompli lorsque tu as dit « Maintenant, je veux que Jésus, ça soit mon Sauveur, mon Seigneur, et je veux vivre pour toi pour toujours avec ton Saint-Esprit en moi. » Ça paraît facile à dire comme ça, mais c'est toutes ces conséquences que Dieu décrit dans ta vie. Est-ce qu'on en a réellement conscience dans notre quotidien? Alors oui, c'est vrai que les circonstances restent là, et peut-être tu es venu ce matin avec ta propre vallée de l'ombre de la mort. Peut-être tu es venu avec des ossements secs avec toi. Peut-être tu te dis, en fait, dans mon cœur, il est sec. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Ce matin, peut-être tu regardes ta vie et tu te dis, ben voilà, c'est sec. Mon couple, il est sec. Ma foi, elle est sèche. Mon avenir, comme Ézéchiel, je vois des eaux. Et Dieu peut donner vie à tout ça ce matin. Et ça commencera d'abord par un cœur repentant, un cœur qui se confie à Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qui ressort, et il y a plusieurs étapes, mais à chaque fois, c'est la parole de Dieu qui est citée. Ce n'est pas des incantations, ce n'est pas des façons de faire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Est-ce qu'on a conscience qu'à chaque fois qu'on ouvre la Bible ensemble, ces mêmes paroles agissent dans nos cœurs et dans nos vies? Est-ce qu'on vient à l'Église, au culte, au groupe de maison, en ayant ces attentes-là? Est-ce qu'on vient au groupe de prière avec ces attentes-là? À Chaque fois qu'on se retrouve autour de la parole de Dieu, Dieu fait ces choses-là. Dimanche dernier, je vous ai parlé d'un livre qui s'appelle Chaque dimanche compte, pour nous préparer ensemble à venir à la rencontre de Dieu. Je crois que c'est un appel de Dieu à venir préparer, de venir avec des attentes envers Dieu, pour vivre vraiment pour lui. Prendre position. Vous savez, Jésus a vécu quelque chose un peu similaire à Ézéchiel, mais c'était moins glamour encore. C'était avec Lazare. Jésus, il a traîné un peu pour venir le voir, mais c'était la volonté de Dieu. Et lorsqu'il s'est approché pour dire, ben oui, il est Lazare, il lui a dit, ben, il est là-dedans, mais il est déjà plus que mort. Ils n'avaient même pas envie d'ouvrir la porte tellement ils pensaient que ça allait sentir. Imaginez un corps comme dans la situation de la semaine qu'on vient de passer. Si vous avez oublié une poubelle à la maison, c'est rien à côté, je pense. Mais Jésus, il dit non, c'est pas trop tard. C'est pas parce qu'il est en train de se décomposer et que ça pue que ça va bloquer l'action de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de te dire, c'est peut-être ta vie, on n'est pas fier, mais Dieu peut agir. Il peut tout reconstruire. Il peut te donner un cœur nouveau. Mais surtout, vous savez, la dernière étape, c'est quoi? On peut avoir un corps, même très bodybuildé, très beau et tout ça. En fait, la dernière étape, c'est Dieu qui met son esprit en toi. Tu as besoin de l'esprit de Dieu en toi pour vivre réellement comme Dieu te le demande. Et la dernière étape, on l'a lu ensemble, mais Dieu, il a fait ça pour qu'il se sente un peu mieux, pour qu'il soit un peu plus dans le confort. Il l'a fait pourquoi? Il l'a fait pour sa gloire, pour l'honneur de son nom, mais il l'a fait pour former un peuple, et un peuple qui est décrit ici comme une armée nombreuse. Alors, vous en faites pas, on va pas faire une guerre civile, mais est-ce qu'on ressemble à une armée, nous? J'ai entendu un amen. Est-ce qu'on ressemble à une armée pour Dieu? Amen. Vous savez, parfois, imaginez une caserne de pompiers, ça sonne, tout le monde sort du... C'est une caserne, hein, donc ils dorment là-bas. Ils sortent du lit, ils sont tout prêts, ils vont tous dans le camion, et le camion reste dans la caserne. Est-ce que ça nous arrive pas un peu en tant que chrétiens? Non? Si? Un peu? Beaucoup? Ben justement, je vous invite à prendre des tracts là-bas. Alors, vous en faites pas, hein, je pense pas que forcément ce soit le concert qui permette que quelqu'un rencontre Dieu. Je pense que c'est possible parce qu'on va chanter du gospel, on va chanter des paroles qui parlent de Jésus. Mais en fait, ceci parce que vous serez témoin. Parce que vous aussi, vous allez parler de ces chants qui symbolisent combien Dieu est puissant et qu'il agit dans votre vie. Et en plus de ça, on va rajouter ça, on a des livres à distribuer. Ça s'appelle L'homme du milieu, de la croix, enfin, je sais plus le titre exact, c'est pas grave. La croix du milieu, je l'ai lu, il est super. Il y en a un pour vous et un pour les gens à qui vous allez donner. Et l'objectif, c'est de dire, tu le lis et on se revoit quand tu l'as lu et on échange dessus. Est-ce que vous relevez le défi? Est-ce qu'il y a une armée ici?
Oui.
Oui. Est-ce que vous relevez le défi?
Oui.
Merci Seigneur. J'essaie de faire tout ce que je pouvais là. Et Dieu nous confie une mission. Et c'est une mission qui est une question de vie et de mort. Là, j'ai pris l'exemple des pompiers, mais si les pompiers ils restent dedans, et qui a le feu quelque part? C'est une question de vie et de mort. Et c'est pas juste une question de vie et de mort aujourd'hui, c'est une question de vie et de mort pour l'éternité. Alors, je veux pas culpabiliser ou rien, mais c'est une belle responsabilité que Dieu nous donne. Beaucoup de personnes savent enlever la vie. Nous, on a la capacité de pouvoir amener à la vie en Jésus-Christ. Ce matin, on peut le saisir ensemble. Et j'invite l'équipe de louanges à s'approcher. Ce matin, ça nous pose cette question, en fait. Lorsque je viens devant Dieu, qui a un miroir par sa parole, je me présente devant ce miroir, et que ce miroir montre l'état de mon cœur, qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est un cœur avec plein de sparadrap et de bandages tout autour? Un cœur qui est peut-être rafistolé et accroché? Ou est-ce que c'est un cœur nouveau? Jésus dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon elles explosent. Toi aussi, l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre en toi si tu n'as pas un cœur nouveau, un cœur que Jésus te donne. Et ce matin, on peut simplement faire cette prière, tout simplement, Seigneur, je veux être purifié par toi. Ce matin, je veux abandonner ces choses qui sont des idoles pour moi. Je veux abandonner ces choses qui te déshonorent, même si pour moi c'est difficile. Je veux être purifié par toi. Je veux avoir un cœur nouveau par toi. Je veux que ton esprit vive en moi. Je veux que mes pensées, mes actions, mes paroles, ce soit le résultat d'un cœur qui est bouillant pour toi. Ce matin, vous voyez encore des eaux qui sont là. Vous voyez peut-être des eaux qui sont là, qui sont secs. Mais Dieu, lui, voit des enfants, ses enfants. Il voit une armée qui est là pour propager la vie. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de peut-être prendre un tout nouveau départ, de peut-être se repentir, mais pour du vrai. De ne pas rester immergé dans nos péchés, peut-être cette image d'écopée dans ton quotidien, des souffrances, peut-être des choses qui font que tu surnages juste. Ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Et ce matin, tu peux vraiment te confier à lui. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux, comme on l'a chanté dans tous ces chants, venir à la lumière. Vous savez, là où le péché se répand et ça devient la normalité, c'est quand c'est caché. Et la Bible, elle nous dit dans Jean, au chapitre 3, vers la fin, après ce verset qu'on connaît tous, où Jésus, il est venu dans ce monde pour qu'on croit en lui et qu'on ait la vie éternelle, mais il dit aussi que le péché nous amène à nous cacher, d'aller toujours plus dans les ténèbres. Mais celui qui vient à la lumière, il révèle ses œuvres à Dieu. Et c'est là que Dieu agit. Et ce matin, je t'invite vraiment à venir à la lumière de Dieu. C'est pas une lumière de jugement, pas encore. C'est une lumière d'amour, c'est une lumière qui te redresse, c'est une lumière qui te restaure. Et ce matin, c'est disponible pour Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses changer nos cœurs ce matin. Tu vois, on est venu tel qu'on est, et parfois c'est avec des souffrances extrêmes, des situations qu'on ne comprend pas pourquoi on s'y retrouve. Et parfois, il y a des situations où on est dégoûté du péché, mais pas parce qu'il te déshonore, parce que ça nous embête. Et Seigneur, ce matin, en tant qu'Église, on veut confesser devant toi nos péchés. On veut confesser devant toi toutes les fois où nous sommes venus, mais sans te chercher réellement. Toutes les fois où tu nous as parlé, on a rejeté ta parole. Peut-être pas aussi clairement, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que ta parole produise du fruit dans nos cœurs, qu'elle nous purifie, qu'elle fasse de nous des hommes et des femmes qui te glorifient, qui t'honorent, s'il te plaît. Seigneur, tu vois, on est devant toi, Seigneur, et on te demande, s'il te plaît, que tu nous donnes un cœur nouveau. Un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu fasses cette œuvre en nous. Et Seigneur, on te prie aussi que ton Saint-Esprit vienne vivre en nous, mais pas seulement vivre, régner en nous. Je te prie, s'il te plaît, que nous amène à faire les choses et à parler de manière qui t'honore, à vivre une vie d'église qui t'honore, à nous encourager les uns les autres pour t'honorer toi, Seigneur, pour manifester ta gloire, Seigneur. Je te prie que dans cette région où tu nous as placés, que nous puissions être une église qui soit vivante, pas un tas d'ossements, Seigneur. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu sois au centre de nos vies, au centre de nos pensées, Seigneur. Viens agir avec puissance au milieu de nous. Amen. On veut chanter ce chant qui nous dit que Jésus, c'est le bon berger. Un berger qui nous dirige, qui prend soin de nous, même lorsqu'on traverse les sombres vallées de la mort. Amen.